Bonsoir Florence Rochefort, on est très heureux de vous accueillir ici chez Mola, alors de manière virtuelle ou distancielle, comme souvent dans cette année très particulière. Et ce soir, on est là pour présenter un ouvrage que vous avez coécrit, donc avec Bibia Pavard et Michel Zancarini-Fournel, qui s'intitule « Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, à la découverte ». Octobre 2020, 500 pages. Et donc je vais présenter rapidement les autrices de cet ouvrage. Donc Bibia Pavard, elle est maîtresse de conférences en histoire à Paris 2 et elle est membre junior de l'IUF. Michel Zancarini-Fournel, elle est professeure émérite à l'université de Lyon 1 et évidemment l'autrice remarquée d'une très grosse histoire populaire de la France, sortie il y a peu. Et vous-même, vous êtes donc Florence Rochefort, chercheuse au CNRS, spécialiste des mouvements féministes sous la Troisième République et du lien entre la question donc des féminismes et de la laïcité. Et vous avez écrit en 2018, il y a 2 ans, « Le que sais-je, histoire mondiale des féminismes ». Alors ce livre, il est, moi je le perçois aussi dans une espèce de vague éditoriale où on a eu des grands livres pas nécessairement scientifiques sur la question des féminismes, le culotté de Pénélope Bagieu qui a beaucoup marché, le sorcière de Mona Chollet qui a aussi été un grand succès, et dans le versant scientifique, un livre qui s'appelait L'Europe des femmes, 18e, 21e siècle, dirigé par Julie Legac et Fabrice Virgili. Ici, on a un ouvrage scientifique original, avec non seulement un cahier central en couleur, mais j'ai été sensible à ça, un grand nombre de documents iconographiques et des textes nombreux qui permettent de plonger vraiment dans la cuisine des archives et de revenir aux documents. Et puis un livre qui, donc, dans l'histoire de ces mouvements féministes, se développe de la Révolution française jusqu'à la plus récente actualité avec le mouvement MeToo. Et on voit bien qu'à la fin, le nombre de pages commence à augmenter un petit peu à mesure qu'on arrive vers l'actualité. Alors on retrouve dans ce livre-là des portraits nombreux de féministes célèbres, alors évidemment comme Simone de Beauvoir, mais avec un parti pris aussi d'éclairer des trajectoires beaucoup moins connues, hein, comme celle d'Hubertine Auclert, de Louise Weiss, de Paulette Nardal, et qui permettent de s'attacher à tous ces destins, tout comme d'une certaine manière aussi hein, aux structures de ces féminismes. Et puis il y a deux partis pris, la question du genre, qui est dès l'introduction posée, donc comme cette construction sociale des normes de la féminité et de la pluralité des féminismes, et puis la question de l'intersectionnalité, hein, qui est un fil rouge. Et donc maintenant, on va poser un certain nombre de questions. Et une toute première question qui est très simple. Vous avez écrit à 3 mains, mais à 6 mains, enfin à 3 personnes. Comment vous avez eu l'idée de ce projet? Comment ça vous est venu à toutes les 3?
Alors, nous sommes toutes les 3 spécialistes de l'histoire des féminismes. Et c'est en faisant un séminaire à 3, après avoir déjà publié un ouvrage à 3 sur les lois Veil, mais qui en fait était une généalogie des lois Veil qui commençait déjà début 20e siècle. Et c'est un peu cette expérience que nous avons trouvée très positive d'écriture à 6 mains. Avec 3 générations différentes qui finalement confrontent leur sensibilité, leur regard, leur type d'analyse, que nous avons commencé un séminaire en 2013 à l'EHESS en master en socio-histoire des féminismes. Et c'est vraiment le fruit de cette expérience qui nous a donné envie de la transformer en ouvrage. À la fois un ouvrage de synthèse, comme quand on fait un cours, donc essayer de donner l'actualité vraiment de la recherche, mais aussi un ouvrage de recherche, c'est-à-dire qu'à partir des questions que nous posions, notamment dans le postcolonial, l'intersectionnalité, mais aussi les questions que posaient nos étudiantes et nos étudiants, et qui nous interpellaient, quelquefois il fallait aller chercher pour trouver les réponses, d'où peut-être cette sensibilité à des paroles minoritaires. C'est donc le fruit de cette expérience commune qui nous a donné l'occasion de rédiger cet ouvrage. Alors ensuite, il faut passer à l'écrit. C'est encore une autre... Et donc, voilà, c'est encore une autre étape. Le cours, c'est quelque chose de très, très oral. Et là, il fallait passer à l'écrit. Et il y avait des options... Enfin, cet ouvrage, il est très mûri à 3. Et en partenariat avec l'éditrice et avec la maison d'édition, La Découverte, qui souhaitait un ouvrage à la fois scientifique et accessible à un grand public intéressé et savant. Donc c'était quand même, et pour nous ça a été une expérience vraiment extraordinaire, parce que c'est assez rare qu'une maison d'édition ait exactement la même envie que des auteurs. C'est-à-dire, par exemple, on n'a pas été du tout... disons restreinte en nombre de signes. On a eu à peu près l'iconographie qu'on voulait et on a été assez docile, on va dire, sur les notes, mais on en a quand même mis. C'est la seule restriction par rapport à l'idée que nous faisions d'un ouvrage scientifique, c'est qu'évidemment, voilà, la maquette, pour qu'elle soit accessible, elle ne supporte pas des notes comme on faisait auparavant.
Alors, auparavant, ou en tout cas dans certaines autres maisons d'édition, mais c'est vrai que le pari est, comme je le disais un peu au début, est assez bien réussi, est très bien réussi, puisqu'on a un propos qui est scientifique, et en même temps, tous ces documents, toutes ces choses-là qui permettent une lecture quand même assez, assez scandée, et on sent bien qu'il y a ce projet-là. Alors, la première question sur le fond... Et vous pouvez évidemment me détromper si je dis des bêtises, parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces périodes-là. Mais c'est en lisant les premières pages sur la Révolution française. Alors évidemment, on a tous discours sur les grandes figures, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, etc. Mais j'avais lu il y a quelques années le livre d'Éliane Viennot, qui s'appelait « Et la modernité fut masculine », qui montrait que, d'une certaine manière, la Révolution française avait été beaucoup plus ambiguë sur une certaine émancipation féminine. Quels sont les legs de ce mouvement révolutionnaire et de la plongée de centaines et de milliers de femmes aussi, de milieux populaires, dans cette activité politique-là? Est-ce que c'est plutôt positif ou est-ce qu'au contraire, ça a donné lieu à un retour de bâton après la Révolution française?
Ce qu'on a voulu montrer, déjà démarré en 1789, ça n'allait pas forcément de soi, c'était le choix d'accentuer donc quelques questions principales, dont le lien au politique. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment remettre en avant la question féminisme et politique et la question d'un mouvement collectif. Et ce qui était intéressant en démarrant la Révolution française, c'est que ce n'est pas si évident que ça, puisque le mot n'existe pas, que ce n'est pas tout à fait non plus une structure identique à celle qui va se développer sous la Troisième République, où ce sera vraiment un mouvement beaucoup plus classique, donc pour les droits des femmes. Là, c'est à la fois une expérience révolutionnaire, donc des femmes qui s'engagent politiquement et qui, en revendiquant d'être reconnues comme citoyennes actives, pas forcément liées au droit de vote, mais déjà simplement en étant participantes de cette révolution, ont un acte, si vous voulez, d'émancipation et d'adhésion à une nouvelle idée de femmes actives politiquement. Et puis, il y a parallèlement ces grandes figures intellectuelles où il y a aussi Condorcet. C'était important de mettre en valeur aussi l'apport des hommes dans cette histoire de longue durée, ou Olympe de Gouges, comme vous l'avez cité. Donc, c'est la rencontre entre mouvement populaire et puis, on peut dire, mouvement peut-être plus intellectuel, avec à la fois une question autour de l'antiracisme. On a voulu montrer une généalogie de l'antiracisme, notamment de ces grandes figures Condorcet, Olympe de Gouges, et puis cet apport d'un mouvement populaire féminin, de ces clubs de femmes qui vont quand même marquer l'histoire, même si ensuite on a un recul, mais on a un recul pour l'ensemble du mouvement populaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les femmes qui perdent à ce moment-là, c'est aussi l'ensemble du mouvement révolutionnaire. Donc, à la fois, effectivement, il y a la première grande contradiction qu'on va retrouver tout au cours du 19e siècle et même 20e siècle, c'est cette fossé entre les influences révolutionnaires et égalitaires et ce mouvement de pensée de l'égalité ou de pensée du citoyen et le fait que la plupart des révolutionnaires masculins refusent d'étendre cette citoyenneté aux femmes ou de refuse même de penser l'égalité des sexes en considérant que c'est une non-question et qu'il est absolument essentiel, et là c'est intéressant parce que c'est dit explicitement, qu'il est indispensable que les femmes prennent en charge la sphère domestique. Et au moment où on veut reprendre en main le mouvement populaire, on interdit les clubs de femmes, on interdit aux femmes de se réunir à plus de 3 dans la rue en 95. Donc on voit bien aussi qu'elles sont comme une variable d'ajustement. À la fois, elles sont quand même remarquée et utilisée. Et puis, à un moment donné, c'est pas de droits spéciaux pour vous, pas d'égalité. Mais en même temps, il y a une égalité civile. C'est-à-dire que c'est pas d'égalité politique, mais il y a quand même des droits civils importants qui sont accordés en 1792 et qui ne seront accordés à nouveau ou arrachés à nouveau que dans les années 1970. Donc, c'est quand même une extrême radicalité. Et je pense que c'est plutôt l'ambivalence de cet héritage qu'il faut souligner. Parce que jamais on est allé aussi loin dans des acquis, disons, dans le couple et dans la capacité civile des femmes mariées, ce qui est quand même un point essentiel dans la vie quotidienne des femmes qui travaillent, des commerçants, de la possibilité de gérer leur argent. Donc, il y a à la fois des avancées extraordinaires. Et là, le recul, c'est le code Napoléon et les différentes versions du code Napoléon. Et c'est un recul, voilà, c'est le triomphe d'une bourgeoisie beaucoup plus conservatrice qui va faire un code, comme on le sait, de propriétaire.
Merci pour cette réponse qui fait bien la part des choses. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'était la manière dont il remet en cause une idée simple, qui serait de dire que finalement, dans la manière dont les historiennes et les historiens pensent les problèmes, on a des chronologies un peu habituelles, et donc très clairement, on se dit, bon, vaguement au 19e, les luttes féministes étaient des luttes politiques, purement politiques, notamment à la fin du 19e pour le suffrage, et par contre, c'est au 20e siècle, notamment quand on pense les générations féministes, c'est au 20e siècle que les questions de ces mouvements se sont décalées vers des questions sur les normes, sur le rapport au corps, sur la violence faite aux femmes, etc. Et dans le livre, j'ai adoré, en fait, vous montrer que ces différents combats sont en permanence connectés. Et que ne serait-ce que pour les Saint-Simoniens, donc ce grand mouvement intellectuel français des années 1820-1830, hein, donc en plein milieu de la restauration de la monarchie de Juillet, que même dans ces mouvements-là, vous avez des revendications sur l'amour libre, donc sur complètement autre chose que les acquis politiques et civiques, des choses qui font des effets de miroir incroyables. 1872, un manifeste féministe qui dit, je cite, « Ce que nous voulons, c'est que la séduction soit punie ». Et on ne peut pas s'empêcher de penser au droit d'importuner, Catherine Deneuve, les débats actuels. Et puis même des sénateurs qui prennent la parole sur des sujets très actuels. Donc moi, ma question, c'est que votre livre finalement fait éclater un certain nombre de chronologies, de combats qu'on pensait bien rangés comme ça dans des chronologies habituelles. Est-ce que les luttes ont toujours été interconnectées? Est-ce qu'il y a toujours eu ce mélange entre lutte pour le corps, pour le contrôle sur le corps, pour la question des tâches domestiques, etc. Est-ce qu'on peut retrouver le passé, tout ça?
Oui, c'était aussi une option. Notre démarche, c'est une démarche qu'on peut appeler donc de socio-histoire, c'est-à-dire qu'on est parti aussi de l'interpellation de l'actualité, non pas pour projeter le présent dans le passé, mais pour interpeller notre regard et aller faire des généalogies tout en respectant évidemment le contexte et ce que veulent dire absolument les mots au moment où ils sont et les paradigmes au moment où ils sont exprimés. Donc il y a vraiment un très grand souci de contextualisation, mais c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit politique comme mot-clé, il y aura évidemment race, racialisme, enfin racisme, anti-abolitionnisme, anti-esclavagisme, mais il y a aussi genre, et dans genre, il y a ce rapport aux normes, et en fait, même dès la Révolution, on trouve tout de suite en fait l'expression d'une critique de la frivolité, d'une critique de la féminité telle qu'elle est construite par des normes qui finalement refusent d'éduquer les filles parce qu'elles doivent, leur destin est de plaire et de se marier et de faire un bon mariage ou alors dans les classes populaires tout simplement de ne pas déroger à certaines règles de pudeur, d'honneur et de code autour du masculin, du féminin. Et en fait, les revendications féministes sont très lucides autour de cette question. Et là, pour beaucoup des textes féministes, la solution, c'est l'éducation. C'est-à-dire que les femmes ne pourront sortir de cette norme parce que les féministes sont très conscientes, et même Condorcet le dit aussi de façon très drôle sur Rousseau en disant « mais les femmes préfèrent beaucoup lire Rousseau que me lire moi parce qu'il dit à quel point elles sont séduisantes et c'est ce qu'elles aiment entendre ». Donc les féministes sont très conscientes de l'importance de la féminité, de la séduction que la féminité exerce sur les femmes elles-mêmes et qui, du coup, les encouragerait à ne pas revendiquer autre chose. Donc, la solution, c'est toujours l'éducation. Puis ensuite, vous avez parlé des Saint-Simoniennes. Alors là, c'est un moment très particulier où on retrouve la même chose, hein, la critique de la féminité, le besoin d'éduquer, le besoin d'écrire. Mais il y a un rapport beaucoup plus aigu à se dire soi-même, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'intériorité et à la prise de parole des femmes, et c'est en se libérant de ces normes, mais aussi du poids du regard masculin et de ce que les hommes, disons, l'injonction des hommes dans ce mouvement très particulier politico-religieux, que les femmes ont une parole à faire émerger. Et dans cette parole, il y a toute une critique du mariage qui vient du saint-simonisme, mais qu'elle s'approprie en essayant de faire la part des choses. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'elles ne sont pas non plus toutes d'accord. C'est-à-dire que c'est pas seulement le début d'un mariage d'amour, c'est vraiment, on pourrait dire, un rapport à la sexualité et à l'épanouissement sexuel. Donc c'est une parole très rare au XIXe siècle, autour finalement du plaisir. Alors ça vient de cette utopie saint-simonienne, de l'exaltation de la chair, avec aussi toutes ces dérives d'instrumentalisation des femmes, hein, et de la séduction des militantes pour récolter de nouveaux adeptes. Mais elle s'approprie cette question, et certaines disent « Non, pour nous, c'est trop tôt, ce sera l'horizon révolutionnaire ». C'est trop tôt pour nous. Et puis d'autres qui vont faire l'expérience, et d'ailleurs souvent malheureuse à terme, parce que Pauline Roland se retrouve avec 3 enfants de 3 pères différents et qui n'assument pas les charges de leurs enfants. Donc elle se retrouve dans une extrême pauvreté. Claire Desmarres se suicide. Donc il y a un risque qui a été pris tout à fait considérable, et beaucoup de commentaires. Et c'est ça qui est particulier à cette période et très touchant à redécouvrir aujourd'hui.
Cette question-là et cette place des Saint-Simoniennes amène à une nouvelle question. Dans la mesure où dès le début du livre, vous assumez une position qui se fonde donc dans le genre et dans la construction sociale de la féminité, moi, je trouve que c'est aussi un des apports qui permet de sortir uniquement de l'étude ou de l'histoire des mouvements sociaux féministes, et aussi d'intégrer les réactions masculines, l'antiféminisme et évidemment les questions hétérosexualité, homosexualité. Et donc, vous écrivez une histoire qui, à mon avis, est très intéressante, qui montre que tout ça se déroule pas en vase clos, mais qu'il y a bien des réactions antiféministes extrêmement violentes. Alors, il y en a qu'on connaît, ou d'ailleurs qu'on connaît pas, mais quelqu'un comme Pierre-Joseph Proudhon, donc qui est un des fondateurs de l'anarchisme à la française, a des propos extrêmement durs et assumés et antiféministes. Il y a d'autres moments où on voit d'autres hommes, même si vous l'avez souligné à l'instant, évidemment, il y en a qui sont des compagnons de route, qui vont militer et être aux côtés des féministes, mais on a aussi l'inverse. Et avec ces discours, là j'ai pris une citation parmi tant, où un homme politique dit « Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme », donc vraiment avec une réassignation très forte. Comment est-ce que vous percevez ces mouvements-là dans le passé? Est-ce qu'il y avait à chaque fois un peu les théories, encore une fois, de retour du bâton? Est-ce qu'à chaque avancée féministe, il y avait un retour extrêmement fort, une réaffirmation de la norme masculine, etc.? Est-ce qu'on voit ça dans le 19e et au début 20e?
Oui, c'est très frappant dans toute cette généalogie et cette histoire des féminismes. C'est d'abord le fait que ce sont des mouvements très minoritaires et qui ne font pas du tout consensus, qui vont contre une norme établie, y compris parmi les plus révolutionnaires ou les plus radicaux. Donc c'est difficile de trouver des alliés, aussi bien parmi les femmes que parmi les hommes. Et puis cela provoque une réaction extrêmement vive de refus de l'égalité. C'est particulièrement frappant en 1848, lors de la Seconde République, puisque c'est l'instauration du suffrage universel et du droit au travail, où là on voit un petit groupe de femmes qui se démènent de façon assez admirable pour réclamer pour les femmes aussi le droit au travail et pour les femmes aussi le droit à ce suffrage dit universel. On est déjà dans une grande question sur l'universel masculin. Et là, la réaction, elle n'est pas seulement des discours. Il y a des discours antiféministes, il y a les caricatures de Daumier, il y a Proudhon qui va être un des fers de lance des discours d'hostilité. Il y a aussi des questions, c'est des hommes qui viennent pour saboter des réunions de club. Et finalement, le club de la Voix des Femmes, qui était ce groupe et ce journal dans lequel s'exprimaient ces féministes, va être fermé. Et une de celles qui était la leader de ce mouvement et qui finançait le journal et qui avait pris le groupe à son nom, donc est particulièrement visée par ces caricatures, par cette violence, dit que ça a été la pire expérience de sa vie. Parce que il faut s'imaginer, voilà, ces femmes du 19e siècle, c'était une prise de risque considérable déjà de prendre la parole en public. Qu'est-ce que c'était le préjugé contre les femmes qui parlaient? C'était qu'elles avaient des voix trop perchées, que c'était impudique, que c'était même obscène, et que le fait qu'elles montent à la tribune, c'était une façon, de déroger absolument à tous les codes de pudeur qui devaient être dans toutes les classes sociales respectées. Donc elles prennent déjà un risque considérable. Et elle déchaîne une violence. Et je crois que, alors, on n'a pas fait non plus une histoire de l'antiféminisme, mais on ne peut pas comprendre l'histoire des féminismes sans avoir en tête ce type de violence. Alors, il y a la violence ordinaire de la domination masculine. Et là aussi, nous avons été attentives à remettre en valeur ce que les féministes dénonçaient de cette violence quotidienne. C'est peut-être quelque chose qu'on a mis davantage en valeur que si on avait écrit à un autre moment. Et puis il y a cette violence antiféministe dont je voulais souligner qu'elle n'est pas que discursive et qu'elle est aussi vraiment physique. Et avec du tapage, du charivari, et alors une efficacité redoutable parce que les clubs sont fermés. Et finalement, il y a une espèce d'engrenage et les hommes politiques, il n'y a que 2 ou 3 parlementaires de cette nouvelle République qui vont s'insurger contre le fait qu'on, à nouveau, on ferme les clubs de femmes, on interdit aux femmes d'assister au club et d'avoir leur propre club, et puis on va leur interdire même le droit de pétition. Donc là aussi, c'est très clair. Il y a vraiment une volonté de les faire taire et un dénigrement systématique de leurs paroles, quel que soit, même quand il s'agit d'un discours beaucoup plus modéré, on pourrait dire, qui concernerait par exemple que l'éducation. C'est-à-dire, c'est pas sur le contenu, c'est toujours le fait même qu'elles puissent revendiquer un droit n'est pas tolérable. Et là, il y a une violence qu'il faut pouvoir expliquer, analyser et comprendre, parce que sinon, finalement, il y a une espèce de familiarité aujourd'hui avec le discours féministe même du 19e siècle, parce que les mots sont en écho avec quelque chose qui fait davantage partie de notre culture. Nos sociétés sont devenues plus égalitaires, même si les problèmes ne sont pas du tout tous résolus. Mais il y a une grande familiarité à l'idée d'égalité. Alors que c'est quelque chose de tout à fait incongru et subversif que d'imaginer l'égalité des sexes. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on lit dans les caricatures et dans l'antiféminisme? On lit que la pensée même d'égalité n'est pas possible. C'est-à-dire quand les femmes disent « nous voulons l'égalité », elles disent pas « on veut prendre le pouvoir et mettre les hommes à la cuisine ». Elles disent « on veut partager le pouvoir, on veut notre part, tout simplement, en tant qu'individu et citoyenne ». Eh bien, on les accuse de vouloir prendre le pouvoir, justement. Et toutes les caricatures, c'est de montrer… Alors, ça nous fait rire et ça nous fait sourire, mais c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que c'est l'impossibilité de penser l'égalité, le refus même de cette pensée, en montrant, en donnant, si vous voulez, c'est toujours un procès d'intention. Si vous dites que vous voulez l'égalité, c'est que vous voulez le pouvoir. Et en fait, pour continuer le raisonnement, le pouvoir, vous l'avez déjà, puisque nous vous désirons, donc vous avez un pouvoir de séduction, et c'est déjà largement suffisant. Et on en revient toujours à le refus d'une femme pensée comme individu et citoyenne, et toujours ramenée à son corps et à sa sexualité.
Enfin, ceci dit, c'est pas si loin de certains discours qu'on entend aujourd'hui qui considèrent que toute revendication d'égalité est une transgression énorme dans un équilibre qui est perçu encore aujourd'hui avec une forme de banalisation comme égalitaire, alors qu'il l'est pas. D'ailleurs, je rebondis juste, mais ce que vous dites sur la voix et sur l'intégration des femmes en politique, en Allemagne, quand les femmes accèdent au suffrage en 1918, en novembre 1918, et accèdent à l'éligibilité, il y a un certain nombre de femmes qui sont intégrées au Reichstag et dans les Landtag, notamment la femme de Max Weber, et elle témoigne, elle a un petit texte assez court en disant que les gens se moquent de sa tenue, de sa robe, ça nous rappelle des choses beaucoup plus récentes à l'Assemblée nationale française, et que les députés masculins disent on peut pas les laisser parler, leurs voix sont trop aiguës. Alors sont tombés dans l'invariant, parce que là c'est 1918, mais on voit qu'il y a une longue durée de cette réaction antiféministe. Alors, vous en avez déjà parlé un petit peu, et c'est une question qu'on peut prendre le temps de développer. Le livre a une position d'intersectionnalité qui vise à essayer de comprendre les différents liens entre les oppressions. Et donc de ne pas tomber dans une histoire du féminisme qui serait l'histoire d'un féminisme, on y viendra tout à l'heure, bourgeois ou uniquement blanc, mais de s'intégrer aussi, de s'intéresser à la question des féminismes dans les Antilles, des féminismes dans les colonies et en Algérie aussi, hein, qui tient une place particulière dans l'empire colonial français. Et on sent cette attention hein, très forte que vous avez dans les chapitres de l'entre-deux-guerres. Et donc comment ça s'est mis en place? Comment vous avez voulu mettre en valeur ces voix-là qui sont omniprésentes? Et il y a aussi toutes ces pages sur le lien entre, bien avant au 19e, mais la question de l'esclavage et le statut des femmes. Comment ça et comment ce sujet-là est monté dans le livre? Comment vous l'avez travaillé toutes les trois, etc., etc.
Alors, on s'est beaucoup intéressé à ce questionnement intersectionnel qui vient de la sphère du juridique et qui a été mis en avant pour défendre les femmes noires, pauvres, discriminées dans le cadre de l'Amérique du Nord, des États-Unis. Mais c'est devenu aussi un courant intellectuel qui questionne tout simplement l'imbrication des dominations. Et on a voulu prendre cette interpellation pour la remonter dans le passé et essayer de comprendre justement ce qui a toujours été un moteur assez complexe d'enchevêtrement à la fois théorique et pratique. C'est-à-dire que c'est aussi des individus, c'est aussi incarné avec des paroles minoritaires qui permettent de mieux interroger finalement l'hétérogénéité des féminismes. Donc déjà dans le titre d'insister sur le S des féminismes, et puis ensuite d'intégrer des nouveaux travaux, c'est-à-dire que c'est pas uniquement nos propres recherches, c'est aussi d'avoir voulu répondre à cette demande d'une connaissance plus large sur l'Empire, sur des minorités, peut-être réintroduire aussi une plus grande complexité parce qu'on dispose d'abord d'un acquis où on peut faire la synthèse et on peut rajouter et réinterroger. Et alors, c'était d'autant plus intéressant pour moi que j'ai écrit ma thèse sur l'histoire des féminismes sous la Troisième République que j'ai soutenue en 1987. Donc, ça remonte à loin. Donc, je réinterroge mes propres travaux ou les propres sources sur lesquelles j'ai travaillé pour y lire des choses différentes et pour amener... cette préoccupation de l'intersection, l'intersectionnalité des dominations. Donc, c'était à travers l'histoire du mouvement ouvrier. Donc, on a repris pas mal les questions féminisme et socialisme, féminisme et mouvement ouvrier, féminisme et révolution, donc déjà en 89. Et ensuite, c'était aussi féminisme et colonialisme. Et là, c'était très important de montrer qu'il y a quand même une majorité de féministes qui sont tout à fait colonialistes et persuadées de la mission civilisatrice des femmes. Et aujourd'hui, c'est important de montrer cet héritage et de le questionner, et montrer aussi qu'il y a une minorité qui est anticoloniale, et puis montrer l'importance de femmes minoritaires et notamment de femmes antillaises. Et là, c'est grâce aussi aux travaux notamment de Clara Planmistre qui nous ont nourris en fait hein, pour réinterroger c'est aussi une façon de mettre la focale différemment. Par exemple, quand on a démarré le chapitre sur l'entre-deux-guerres ou la reprise du mouvement suffragiste, on commence par ce journal de Pointe-à-Pitre, et il y a un effet qui n'est pas seulement ajouter une connaissance nouvelle, mais qui est on peut aussi partir de là et élargir la focale, et ça met complètement en valeur le fait que ces féminismes avaient toute leur importance et leur autonomie, tout en étant toujours transnational ou de liens entre Paris, la province ou les départements. Donc ça a été assez fortement pensé pour recueillir les événements, les figures et les questionnements autour de féminisme et racisme ou féminisme et colonialisme. Et ça a été aussi pensé dans la façon d'organiser les chapitres pour pouvoir intégrer ce récit, y compris quand il ne s'agissait pas seulement de lutter pour des droits spécifiques ou pour le droit de vote, par exemple sur les sœurs Nardal, qui sont les pionnières finalement d'une pensée de la négritude et qu'on a pu intégrer à ce récit questionnant des femmes, questionnant cette discrimination raciale. Et donc c'est déjà un premier pas, et en plus elles prennent conscience aussi a posteriori qu'elles ont été des pionnières et que finalement c'est pas elles qui sont restées dans l'histoire, mais qu'elles ont été parmi les premières dans leur salon et dans la presse à articuler déjà, on peut dire, discrimination de sexe, discrimination de genre, on dirait aujourd'hui, et discrimination de race. Et donc ça, pour nous, c'était vraiment extrêmement important. D'abord, c'était important d'avoir... On voulait faire une histoire renouvelée, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas re-raconter quelque chose que nous savions ne pas être connu de tout le monde, mais on voulait rendre accessible un récit néanmoins dans une certaine continuité chronologique, mais en y ajoutant ces focales et notamment cette parole. Et je crois que ça donne quelque chose d'extrêmement vivant et qui a, semble-t-il, en tout cas, le public a très bien perçu cette volonté et a très bien perçu l'importance de cet apport.
Ben, ça c'est sûr. Je reviens juste un instant sur le précédent ouvrage de Michel Zancarini-Fournel sur l'histoire populaire de la France. On avait d'un côté alors son livre à elle, et puis pas longtemps après le livre de Gérard Noiriel, qui était d'ailleurs venu le présenter juste ici où je suis assis, hein, chez Mola, où Gérard Noiriel faisait une histoire de la domination sur plusieurs siècles. Alors que c'est vrai que dans le livre de Michel Zancarini-Fournel, on avait cette diversité, donc histoire populaire de la France, des provinces, des colonies, des femmes, des jeunes, en ayant une vision un peu autour de l'objet qui permet de voir cette diversité-là. Et c'est vrai que dans le livre, plus avec les documents iconographiques et les textes, on sent, j'ai envie de dire, le S de féminisme, on le sent bien dans le livre. Ça m'amène à une autre question que vous affrontez aussi, et qui est une question importante, parce que vous niez pas les conflictualités des différents féminismes, hein. Ça, elles sont bien mises en valeur aussi. Et la question du féminisme bourgeois, avec, j'ai trouvé, c'est très intéressant, cette accusation qui revient, y compris de la gauche, et y compris des mouvements socialistes, alors je dis socialisme fin 19e, début 20e, révolutionnaire, des mouvements ouvriers, cette accusation que dès qu'on commence à parler des combats féminins, ils deviennent typiquement des combats bourgeois. Comment vous avez réussi à réconcilier ce conflit entre des féminismes populaires, un féminisme bourgeois, dans l'ensemble de la période? Comment ça s'exprime, ces conflictualités?
Alors, l'idée, c'est de bien mettre en valeur justement ces différents courants et ce S de féminisme, et de ne pas du tout effacer le fait que c'est un mouvement toujours très hétérogène, voire très conflictuel, qui arrive à dépasser ses propres conflits parfois autour d'une revendication fédératrice. Et c'est autour, aujourd'hui, ce serait la violence, auparavant, ça pouvait être la sexualité, la libre sexualité ou le droit à l'avortement, encore si on remonte plus loin, le droit de vote, par exemple. Mais sinon, il y a toujours eu beaucoup de conflits, notamment entre, on peut dire, et c'est classique dans d'autres mouvements sociaux, évidemment, entre révolutionnaires et réformistes, ou entre social-démocrates et révolutionnaires. Et la question qui se pose, parce que beaucoup de ces femmes, par exemple en 1848 ou même après, il y a beaucoup de femmes, des féministes qui sont révolutionnaires, mais qui sont toujours confrontées à ce choix ou à cette parole qu'on leur oppose de ce que les marxistes vont appeler contradiction principale, contradiction secondaire. Donc soit on leur dit « Votre propos n'est pas recevable et ce n'est pas intéressant, et retournez d'où vous venez. » Soit on leur dit « Mais oui, c'est très intéressant, les hommes sont... La domination masculine existe, même si ce n'est pas tout à fait le terme qui est utilisé toujours, mais on verra ça plus tard. » Et c'est toujours repoussé. Et donc, votre énergie, il faut la mettre pour faire la révolution et pour détruire cet ancien monde. Et dans le nouveau monde, bien entendu, vous serez les égales des hommes. Et beaucoup ne sont pas d'accord et prennent aussi appui sur l'histoire. Et là, c'est intéressant parce que c'est aussi, elles font aussi leur propre histoire ou l'histoire des féminismes pour dire, mais regardez, à chaque révolution, on nous a trahis. Donc pourquoi est-ce que là, on ne nous trahirait pas à nouveau? Et puis, il y a celles qui, au contraire, vont placer en priorité cette lutte révolutionnaire et qui vont essayer de porter le combat féministe à l'intérieur de ces mouvements révolutionnaires, par exemple à travers la presse, en ayant des rubriques féministes, mais avec une énorme difficulté parce qu'elles doivent faire face déjà à cette option théorique marxiste et puis partagée par beaucoup des mouvements révolutionnaires, qu'il ne s'agit pas d'une priorité, qu'il s'agit d'une question de confort, d'une question bourgeoise, parce qu'on s'attaque au privé et que ça n'est pas politique et pas noble. Il y a toujours une idée aussi de qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui ne l'est pas, ce que les féministes des années 70 vont essayer vraiment de déconstruire. Tout à fait, mais c'est déjà une parole que reçoivent les féministes du début du XXe siècle, où on leur dit « mais c'est pas intéressant », ou alors ce sera résolu par une nouvelle organisation. Et quand elles restent dans les mouvements révolutionnaires, et on a voulu quand même les intégrer aussi, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir une frontière trop stricte entre ce qu'on définit comme féministe historiquement, donc il y a aussi des féminismes à l'intérieur d'autres mouvements, et qui peuvent quelquefois participer à des actions communes avec des féministes qui sont plus autonomes, mais qui vont souvent être amenés à être tout à fait mis en minorité. On leur donnera très rapidement plus le droit à la parole. Et dans le mécanisme même, alors là, dans l'histoire du parti communiste, mais ça vaut aussi pour les hommes, c'est le fait que la double appartenance soit refusée, qu'on ne peut pas être à la Ligue des droits de l'homme, ou franc-maçon, ou franc-maçonne, ou dans un mouvement. Donc ça va absolument vider, finalement, de la possibilité. Il y a beaucoup de féministes qui sont enthousiasmées par la révolution bolchevique et qui croient que ça pourrait être la solution, et qui vont se détourner du parti communiste parce que, en fait, il n'y a pas de possibilité. Elles tiennent à leur engagement dans d'autres mouvements et puis à leur engagement politique pour le féminisme.
Merci pour cette réponse précise. Une question qui est peut-être plus encore plus au centre de vos domaines de spécialité. À un moment donné, vous décrivez la trajectoire de la féministe, donc Hubertine Auclair, dans les années 1880, etc., et de ses voyages dans le Maghreb, en Algérie. Et là, il y a des pages intéressantes, y compris dans le contexte actuel, qui est extrêmement lourd dans les débats qu'on peut avoir à l'université et ailleurs sur ces questions-là. Vous voyez évidemment à quoi je fais référence. Et vous montrez que cette féministe, dont on ne peut pas douter de l'engagement, développe notamment sur la question du voile ce que vous appelez un féminisme impérial ou un féminisme colonial, et que d'une certaine manière elle est empreinte, je cite, hein, des fondements racialistes et colonialistes de l'universalisme républicain de la Troisième République. Est-ce que dès le départ, puisque là vous faites toutes les trois une histoire du féminisme français sur deux siècles, est-ce que dès le départ dans cette Troisième République il y a ce lien avec la question aussi de la laïcité qui se lie dans ces questions-là et qui empêche une certaine intersectionnalité, si ma question est claire?
Alors, oui, il y a deux. Je pense qu'il y a, si je puis me permettre, il y a deux éléments, pas toujours liés. C'est plutôt l'idéologie républicaine et la croyance. Alors, la laïcité en fait partie. La croyance dans la mission civilisatrice de la France. Et c'est une globalité. Et Hubertine Auclair, qui est une militante chevronnée, vraiment une pionnière du droit de vote des femmes en France, et qui est une plume acérée et très talentueuse pour dénoncer la domination ou les discriminations dont sont victimes les femmes dans tous les domaines, dans son journal qu'elle a fondé qui s'appelle La Citoyenne. Et puis, pour suivre l'homme qu'elle aime, et d'ailleurs qu'elle est finalement obligée d'épouser alors qu'elle vivait en union libre, elle le suit en Algérie où il a été nommé juge de paix. Et là, elle découvre un monde qu'elle ignorait tout à fait. Et ce qui nous a paru intéressant, c'était de montrer son ambivalence. On ne voulait pas caricaturer la position d'Hubertine Auclair, parce qu'à la fois, oui, elle est dans un féminisme colonial, c'est-à-dire qu'elle croit à la mission civilisatrice de la France, mais en même temps, elle a une lucidité sur la façon dont le racisme s'opère contre les populations arabes, et elle pense que c'est en donnant le droit de vote aux indigènes que la colonie pourra devenir enfin égalitaire et pourra être à la hauteur de ce que la mission civilisatrice de la France est censée porter. Donc on a vraiment cette contradiction. Effectivement, elle dénonce l'oppression des femmes, mais de façon relativement, disons, relativement juste. Mais en même temps, elle a un regard tout à fait ethnologique, parce qu'elle fait des enquêtes, et où elle valorise énormément les femmes arabes, leur savoir-faire, leur caractère audacieux, leur révolte, leur façon de contourner les interdits. Donc, elle n'est pas du tout... elle n'est pas du tout une caricature de ce féminisme colonial, mais néanmoins, elle emporte aussi beaucoup des préjugés, y compris antisémites, me semble-t-il, même si ce n'est pas extrêmement flagrant, mais on le sent. Mais en même temps, elle développe une critique qui est quand même très rare à l'époque, puisqu'on est dans la fin des années 1880. Elle revient en France tout à fait à la fin des années 1880. Elle a une critique très acerbe et très juste de ce qu'est le système colonial contre les Arabes, qui sont spoliés de tout et qui n'ont aucun, on leur prend leurs biens, leurs terres, et qui n'ont aucun moyen de se défendre avec le code de l'indigénat. Et ça, elle est d'une lucidité tout à fait claire, enfin même tout à fait remarquable. Donc la solution est une solution coloniale et colonialiste, oui, mais en même temps, elle a une lucidité, en tout cas sur certains aspects de cette domination, qui sont très clairvoyants. Donc c'était ça que nous voulions montrer. C'était vraiment à la fois parler de féminisme colonial, puisque oui, c'est un féminisme colonial, et puis en même temps, il y a des lucidités, il y a des ornières, et surtout, c'est dans un système de pensée d'une époque qui dépassait difficilement cette idéalisation de la République comme une valeur universelle qui porterait en elle-même. C'est là qu'elles se sont trompées. C'est que ce sont tous les colons qui ont refusé absolument toute réforme que Bertine Auclair, par exemple, proposait. Donc elle a cette position ambivalente, mais elle a une attention à la population arabe et aux femmes arabes qui est tout à fait remarquable.
Merci. Alors évidemment, le livre ensuite, j'ai bien aimé que, passer la partie sur l'entre-deux-guerres, en fait, très souvent, on saute directement aux années 60 et 68 notamment, sans s'intéresser aux années 40-50, où là, il y a des pages vraiment, vraiment assez originales, de découvertes, de mouvements qui continuent, enfin, qui sont présents malgré tout. Mais ma question, c'était, comme on s'approche quand même de la dernière question, et que le livre aussi, on le sent, puisqu'il c'est assez drôle, il se termine sur le premier jour du confinement du mois de mars, mais il se termine justement sur la grande vague MeToo, où la centralité des violences faites aux femmes, et notamment des violences sexuelles, est là. Est-ce que vous parleriez d'une quatrième vague, une quatrième génération féministe? Est-ce que ça a un sens, après un tel livre, de dire première génération combat politique, deuxième génération? Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette structuration des mouvements? Est-ce qu'on est dans une quatrième vague? C'était ma question.
Alors, il y a deux choses. On est dans un moment spécifique, oui, et que nous avons appelé dans le livre le moment MeToo. Mais nous refusons à utiliser le terme de vague, d'abord parce que nous commençons en 1789 et que si on met tout le monde, et on pourrait même retrouver des choses dans l'Ancien Régime qui seraient aussi des généalogies de pensée de l'égalité des sexes, et à ce moment-là, on ne sait plus du tout de quoi on parle. Et par ailleurs, ce terme de vague suppose quelque chose de trop continu finalement, qui serait toujours identique. Et donc, on a plutôt décidé de ne pas l'utiliser et d'avoir des scansions chronologiques en fonction de l'émergence ou l'irruption de moments forts de ces mouvements sociaux autour de l'égalité des sexes, de la libération des femmes. Mais ces moments couvrent aussi des périodes plus calmes, mais qui ne sont pas non plus des périodes complètement, vierges. C'est-à-dire, c'est des périodes où aussi on trouve des éléments, des groupes, des ouvrages, des traductions qui prolongent la réflexion. Et nous avons voulu mettre en avant l'importance des déclencheurs, des événements déclencheurs qui sont quelquefois propres à l'histoire des femmes et du genre, qui sont quelquefois des moments politiques, au contraire, plus révolutionnaires ou plus de contexte, plus, disons, d'histoire plus classique, d'histoire politique plus classique. Donc oui, une nouvelle génération qui s'est ralliée au mouvement MeToo, mais c'est plutôt cette idée d'appeler ça un moment. Ça nous permet de montrer à la fois des choses nouvelles et éventuellement des actrices, et on l'a vu dans la jeunesse, hein, qui est très concernée, même l'extrême jeunesse, des lycéennes qui sont présentes dans les manifestations, mais en même temps, ça se sédimente sur des générations qui sont déjà présentes et qui restent présentes, donc ça n'est pas que la jeunesse. Et par ailleurs, il y a un moment de cristallisation autour d'une thématique qui a été abordée et défrichée depuis les années 1970. Et on a essayé même de montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette idée, cette question de la violence, elle est comme vous avez parlé de la question du corps, on la retrouve aussi en filigrane à d'autres moments, hein, notamment les faits divers sur les petites bonnes victimes de leur patron, la vie des domestiques, l'adultère. Donc tout ça, c'est quelque chose qui parcourt le livre. Donc MeToo, c'est un nouveau moment où cette question devient centrale. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que là où il y a quelque chose de nouveau, c'est que la question des violences, et notamment des violences sexuelles, va, si vous voulez, devenir le paradigme dominant. Et là, ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais ça ne part pas de rien. Et moi, j'éviterais de parler de nouvelles vagues parce que ça ne me semble pas juste. Et par ailleurs, ça reprend. Enfin voilà, il y a des tas d'éléments qui sont déjà là en présence depuis les années 2000.
Oui, d'ailleurs, je pense que justement dans les ouvrages que je citais au départ, qui sont évidemment des blockbusters, hein, etc. Les livres de Pénélope Bajut, etc. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est à la page 320, la revue, parce que votre livre est fondé sur beaucoup de dépouillements de revues. Et il y a une revue qui s'appelle Sorcières, les femmes vives, qui date de 1977, ce qui montrait qu'effectivement, sans du tout minorer le grand succès du livre de Mona Chollet, il y avait toutes ces réflexions-là ont effectivement une histoire longue. Merci beaucoup. Je pense que le livre montre ça, cette histoire très longue de deux siècles de ces mouvements-là. Et donc, on vous remercie beaucoup de cet éclairage et beaucoup de livres qui vont suivre, j'espère, pour tracer le sillon du succès.
Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.